J'exerce sur le marché à terme des marchandises.
Quelles marchandises?
Cacao, sucre, soja, etc.
Les produits de première nécessité.
Ah oui, c'est intéressant.
Ça dépend. Ça va, ça vient.
Ça monte, ça descend. Un jour le soleil, le lendemain la pluie, il faut prévoir. Demandez à monsieur Laumont. Tantôt je lui dis couvrez-vous, tantôt va faire chaud.
J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir.
Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. Avoir plein nos armoires.
Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers.
Oh, on a tout compris.
On nous cache tout, on nous dit rien.
On nous prend, faut pas déconner, déconner. Pour des cons alors qu'on est.
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
Bonsoir, vous êtes bien sur RFPP 106.3 FM et c'est l'émission Zoom Écologie, émission spéciale, la grosse émission, avec Sophie qui va nous parler
des nanotechnologies avec une invitée qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, les nanotechnologies, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, où on en trouve aujourd'hui, quel impact au pluriel éventuellement sur l'homme et l'environnement. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Et on avait envie, Johan, de commencer par une citation qui correspond assez bien à la façon dont on souhaitait poser le débat. Donc on va commencer. Aujourd'hui, à peine 10% de la population a entendu parler des nanotechnologies. En pleine démocratie, notre avenir nous serait-il volé ? Avons-nous à ce point confiance en nos experts et nos technocrates pour leur abandonner notre sort ? Aurions-nous tous démissionné avec ce sentiment terrible de n'avoir aucune prise sur ces technologies et leurs enjeux ? Alors j'ai notre invitée qui sourit parce que cette citation, elle est extraite d'un ouvrage qu'elle connaît, qui s'appelle « Le meilleur des nanomondes ». Dorothée Benoît-Brevès, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes auteure du meilleur des nanomondes qui a été publié en 2009, c'est bien ça ?
En mars, il y a presque un an.
Il y a presque un an aujourd'hui. Vous êtes journaliste scientifique depuis 20 ans et vous êtes spécialisée dans les sciences du vivant, si je ne dis pas de bêtises.
J'aime bien la vie, oui.
Ça tombe bien. Alors, je crois que vous avez été responsable de la rubrique science du quotidien La Croix. Et actuellement, vous êtes déléguée générale de Vivagora, qui est une association de sensibilisation des citoyens à tout ce qui est un peu innovation scientifique, c'est ça ?
Oh, une association qui soutient l'engagement citoyen dans les choix scientifiques et techniques, ça veut dire effectivement tout à fait l'esprit de cette citation. Comment faire en sorte que chacun contribue, apporte sa pierre à notre avenir qui n'est pas écrit d'avance et dont il faut un peu paver le terrain pour qu'il soit souhaitable, qu'il soit agréable et qu'il ne soit pas, comme certains l'ont décrit avant moi, le meilleur des mondes, un petit peu menaçant.
D'accord. Alors, vous avez publié récemment un article qui a retenu toute notre attention, Yoann. C'est dans la revue Études de ce mois-ci, justement. Ça s'appelle « Promesses et craintes des nanotechnologies ».
Oui, donc, voilà, une espèce d'ambivalence, là. Est-ce qu'on peut attendre beaucoup de choses ? Est-ce que les bonnes idées sont au rendez-vous ? Ou finalement, est-ce que ces nanotechnologies sont une espèce de fuite en avant ? Il faut essayer de voir clair.
Avant d'y voir clair, ce qu'on vous propose, c'est d'abord d'essayer une tentative de définition. Qu'est-ce que c'est les nanotechnologies ? Quels objets de notre quotidien contiennent des nanoparticules ? Quels atouts, quels risques, comme on le disait ? Tentative de définition par le biais d'un petit film. C'est un clip, on écoute, on en reparle après.
Les nanotechnologies du grec nanos, nain, se sont imposées depuis quelques années quand l'évolution des techniques a permis, notamment grâce à l'invention du microscope à effet tunnel, d'observer et de travailler la matière à une échelle nouvelle, celle du nanomètre, le milliardième de mètre. Les chercheurs ont alors découvert qu'à cette échelle, de nombreux matériaux acquièrent des propriétés inattendues, très différentes de celles aux autres échelles. Ces propriétés nouvelles ont fait passer les nanotechnologies très rapidement des laboratoires à l'industrie et de là à la vie quotidienne. Près d'un millier de produits intégrant des nanoparticules sont d'ores et déjà commercialisés dans le monde. Ainsi, des crèmes solaires contenant des nanoparticules de dioxyde de titane ou du nanooxyde de zinc protègent mieux des UV du soleil et des nanooxydes de silicium rendent les cosmétiques plus fluides. Des résines chargées de nanotubes de carbone, légères et résistantes, renforcent cadres de VTT, ski ou raquettes de tennis. Des vêtements de sport supportant la transpiration aux chaussettes anti-odeur, l'action antibactérienne du nano-argent est utilisée dans des produits d'habillement, tout comme dans des climatiseurs ou des pansements. Et des associations de nanopoudres de lithium, de fer et de phosphate permettront de réduire encore la taille des batteries de nos portables. À l'instar de l'électronique, première industrie à avoir mis en œuvre des nanostructures et qui travaille aujourd'hui quotidiennement à cette échelle, l'automobile utilise aussi des nanostructures ou des nanoparticules, notamment des nanocéramiques pour rendre les peintures inrayables, tout comme le BTP, pour ses revêtements blancs anti-salissure, l'alimentation avec de la nanosilice comme additif anti-agglomérant, ou des nanoparticules d'argent à effet antibactérien dans les emballages et bien d'autres. Peinture, vernis, caméras, pellicules, panneaux solaires, bandes magnétiques. Avec des centaines d'autres produits en développement, tous les secteurs semblent être concernés, de la santé jusqu'à la défense. Depuis les nano-objets déjà présents jusqu'à ce qui peut être imaginé pour l'avenir, le champ des applications envisagées, réelles ou imaginées, grandit aussi vite que celui des questions. Car tous ces nanoproduits qui résultent des applications de la recherche soulèvent des questions. Les nanoparticules diffusent-elles dans l'environnement? Comment s'y dégraderont-elles? Que deviennent-elles dans le corps où leurs dimensions leur permettent de pénétrer? Des études ont été lancées, mais les premiers résultats commencent à peine à être connus car le domaine est nouveau et il faut concevoir les méthodes appropriées. Ces études sont nécessaires pour les 2 à 4 000 travailleurs environ qui participent déjà en France à la fabrication des produits issus de nanotechnologies ou contenant des nanoparticules, tout comme pour l'ensemble de la population puisque les nanotechnologies se généralisent. D'autres questions apparaissent aussi. Ces technologies toucheront-elles aux limites entre l'artificiel et le vivant, aux libertés individuelles?
Voilà, voilà pour le clip. Donc je retiens les chaussettes anti-odeur, les batteries, le solaire.
Les cadres de VTT.
Les raquettes, enfin, le médicament. Aussi. Enfin, il y a plein d'applications. Est-ce que ça paraît juste comme présentation officielle qu'on peut retrouver facilement sur Internet?
C'est vous le connaissez ce clip?
Il est très bien fait parce qu'il montre cette palette de possibilités qui effectivement s'offre à nous. Et effectivement, à la fin, on se rend compte que nouvelles propriétés, nouveaux risques, hein, effectivement.
C'est rigolo parce que je pensais qu'on a quand même peu conscience de ces nanotechnologies. En préparant l'émission, je suis allée faire un tennis la semaine dernière, je tourne ma raquette et je vois que ma raquette est faite en nanotubes de carbone. Donc il y a un tas de technologies comme ça à appliquer. On disait en début d'émission, c'est vous avez dans votre ouvrage, seulement 10% de la population sait qu'il y a des nanotechnologies dans les produits. Est-ce qu'il y a d'autres produits en supermarché qui ont des nanos
Là, je crois qu'on a entendu, on a à peu près fait le tour. Je trouve qu'il ne manque pas grand-chose. Alors, évidemment, emballage des aliments, c'est à l'infini. Hein. Donc, et dans l'électronique aussi, on peut décliner énormément de choses. Mais ce qu'on comprend là très bien, c'est qu'on a là affaire à des technologies qu'on appelle pervasives, c'est-à-dire qui diffusent dans tous les domaines. Parce que tout simplement, l'idée, c'est de greffer des fonctions nouvelles à des matériaux usuels. Donc c'est un peu Canada Dry, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont tout à fait banales et en fait elles ont des fonctions nouvelles, mais on les achète pas forcément pour ça d'ailleurs. Hein. Par exemple, vous pouvez acheter des frigidaires aujourd'hui, il y a un revêtement nano-argent, on ne vous demande pas spécialement, vous regardez pas forcément, puis vous rendez compte chez vous quand il arrive que, ah tiens, il a le revêtement, pareil pour les claviers d'ordinateur.
Mais c'est spécifié sur ou l'étiquette ou sur un, je sais pas, sur... Alors, vous parliez des lave-vaisselle.
C'est là qu'on a toute une discussion peut-être à avoir, qui est que forcément, quand on a démarré ce type de nouveaux produits, je dirais on n'a pas fait vraiment la différence avec les anciens. Parce que comme il s'agit juste d'ajouter une fonction et qu'on ajoute juste des matériaux connus, hein, le titane, la silice, le carbone, tout ça, bon. Et en fait, parce que dans les autorisations mises sur le marché, dans notre manière d'encadrer l'innovation, on considère la chimie des matériaux et pas l'architecture. Donc, tous ces produits sont arrivés sur le marché sans faire la différence avec les anciens.
Quand vous dites la chimie, c'est simplement l'assemblage, ça veut dire ?
C'est-à-dire que quand vous mettez sur le marché aujourd'hui des nanotubes de carbone, vous déclarez juste que c'est du graphite de synthèse, exactement comme une mine de crayon qui est aussi en graphite ou carbone, ou comme un diamant, ou comme... Il y a beaucoup de matériaux qui sont 100% carbone. Sauf que là, nanotubes de carbone, c'est organisé différemment. Ça ressemble à des espèces de cylindres, hein, comme des petites alvéoles. C'est 100% carbone. Mais l'organisation même est en petites aiguilles donc de carbone, et ça fait que c'est très léger, très résistant. C'est toujours du carbone, mais de par cette architecture, vous avez des propriétés nouvelles et des risques nouveaux. Et donc, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas discriminer parce qu'on a considéré que la chimie. Et deuxième peut-être aspect qu'il faut souligner, c'est que, vous savez, là, dans les pièces où nous sommes tous devant notre poste de radio ou ailleurs, on respire des nanoparticules. Évidemment, la nanoparticule, c'est une échelle, ça n'a rien de très original.
Oui, ça veut dire quoi, nano, en fait ?
Ça existe déjà depuis longtemps, en fait.
C'est juste une échelle, c'est-à-dire ça désigne, c'est comme si on vous parliez de métro-technologie, si c'était des technologies à l'échelle humaine.
Parce que le terme même n'est pas du tout accessible à tout public. Le milliardième de mètre, ça ne me dit pas forcément quelque chose.
Oui, parce que c'est la taille d'une molécule d'eau, c'est 3 atomes en l'occurrence, c'est la taille du diamètre de l'ADN, hein, une autre molécule qui est celle de l'hérédité, c'est minuscule, c'est la taille en fait, c'est l'échelle des atomes. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que en manipulant, en réorganisant ces atomes, on crée des nouvelles architectures qui créent des vides ou qui créent des réactivités particulières. Et donc, là, vous avez des choses qui ne sont pas identiques à ce que vous avez à l'échelle macro. Mais ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est que on a quelque chose à la fois de banal, nous baignons dans les nanos, et en même temps, il y a une rupture parce que les nanoparticules manufacturées ont des propriétés nouvelles et on ne peut pas les considérer comme d'autres, notamment sur le plan toxicologique, parce que, par exemple, si on prend la silice, ou le titane, par exemple, le titane n'est pas un problème pour les micro-organismes quand il est macro-structuré. C'est un produit inerte, c'est pas... Alors que quand ce sont des nanoparticules, on sait très bien que les effets sont très différents sur les micro-organismes. Donc, différents.
Oui, vous auriez... est-ce que vous pourriez synthétiser une définition des nanotechnologies ? Parce que là, je suis un peu perdu, en fait. Y a les nanos, apparemment, ça existe depuis longtemps. On vit avec depuis longtemps. Il y a les fameuses nanotechnologies qui proviendraient de l'industrie et de la recherche. Il y a ce mélange entre ce qui existe déjà et ce qui va exister demain. Est-ce qu'il y a une définition qui peut différencier cette nouvelle science, ce futur prometteur qu'on nous promet avec cette technologie ?
C'est Je pense que ce n'est pas parce que ces nanoparticules existent depuis longtemps que ça veut dire que, qu'on peut les assimiler aux nouvelles. C'est-à-dire que les nouvelles qui sont produites par l'industrie, elles n'ont jamais existé avant. Donc quand on dit nanotechnologie, on désigne des objets qui sont produits par l'homme, des artefacts produits par l'homme, et donc qui n'existaient pas avant ce processus de nanotechnologie ou de nanochimie. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau ? Parce que ce qui est très bizarre avec ce terme nano, c'est qu'on assimile dans le même panier deux démarches. Une démarche qui est les nanos un peu puristes, qui étaient envisagés dans les années 80 par Eric Drexler, qui était de faire des agencements d'atomes pour faire des nanosystèmes comme des usines miniatures qui seraient capables de produire des objets, capables de s'auto-assembler, de se répliquer. Et je dirais ça, c'est la dimension un peu mécanique des nanotechnologies qu'on ne voit pas apparaître. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas vraiment il n'y a rien sur le marché pratiquement de ce type-là. Par contre, ce qui s'est engouffré dans le domaine des nanos, c'est une démarche donc, qui n'est pas celle ascendante de Drexler, qui était l'assemblage des atomes, mais c'est une démarche descendante de miniaturisation, qui est la démarche de l'électronique depuis 40 ans, qui est de faire des gravures de plus en plus fines, de d'émietter la matière, si on peut dire.
La lithographie.
Et alors que ce soit dans l'électronique, la chimie, on fait des poudres de plus en plus fines, voilà. Et tout ça serait bien arrivé, même s'il n'y avait pas eu la mobilisation nano. Et c'est quoi cette mobilisation nano ? C'est peut-être le troisième point qu'il faut souligner. C'est que c'est quand même une démarche qui est avant tout une grande démarche marketing, une démarche politique, qui a été de se dire... alors c'est surtout les Japonais, les Américains en premier qui se sont mis sur cette promesse, si l'on peut dire, qui était de dire on va mettre ensemble les nanos, les bio, les sciences de l'informatique, de l'information et les sciences cognitives dans une espèce de convergence où on va pouvoir faire communiquer l'inerte et le vivant, l'électronique et le cerveau, faire des hybridations. Et ça s'appelle la convergence nano-bio-info-cogniscience, NBIC. Et là, c'est vraiment une démarche politique qui a abouti en 2000 à la grande initiative américaine, avec pratiquement un milliard de mobilisés, avec Clinton qui a dit « bon, ok, on y va ». Et depuis cette époque-là, eh bien, ça fait des grands programmes. Et ça, c'est bien l'habitude. Hein. On a toujours vu depuis la dernière guerre, chaque décennie, il faut trouver un grand programme fédérateur. On a vu la conquête de la Lune. On a vu le séquençage du génome humain. Ben là, c'est la conquête de l'atome. Hein. On a marché sur l'atome, certains ont dit, parce qu'il y a eu des outils aussi qui l'ont permis, notamment le microscope à effet tunnel qui permet de manipuler les atomes un par un. Mais je dirais, on mélange vraiment... Les pionniers qui ont manipulé les atomes un par un, qui ont écrit même le logo d'IBM avec des atomes, ou même qui ont fait les premiers transistors avec juste une molécule, avec ce qui est le gros qu'on a entendu dans toute la présentation, qui est de la chimie, en fait, hein, qui serait arrivée de toute façon.
D'accord.
Mais on a l'impression que c'est un peu un truc d'apprenti sorcier, du coup. Enfin...
Docteur Follamour.
Oui, on est dans Métropolitain, Fritz Lang ou Docteur Follamour dans les années 60.
Vous voyez, déjà les OGM, on était dans cette idée de greffer des fonctions dans des plantes, dans des organismes, le clonage aussi. En fait, depuis la cybernétique, depuis l'époque où on a commencé à faire de la programmation sur des machines, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas programmer d'autres choses. Et là, l'idée, hein, ce qu'il y a vraiment en arrière-plan des nanotechnologies, c'est l'exemple du vivant. On veut programmer le vivant, en fait. Hein. Alors, ça va être du vivant machine, de la machine vivante, on ne sait pas bien comment appeler ces espèces d'hybridation, mais on sait bien que on est dans une phase où on pense la science ou la technique dans... l'idée d'une implantation d'informations dans de la matière qui n'a pas forcément trop possibilités pour augmenter des possibilités, des matériaux, et on fait pareil pour le vivant. Voilà, c'est toute la prétention de l'effort technique vers du pilotage, du prévisible, des cahiers des charges, qui fait qu'on a des machines autour de nous qui fonctionnent à peu près quand même. Hein, c'est pas, voilà, c'est tout un ensemble de choses. Le point là qui est plus délicat, qui est très clairement délicat, c'est est-ce que véritablement on sait ce que l'on fait et est-ce que l'on contrôle quelque chose qui est programmé pour être quasi incontrôlable. Hein. Jean-Pierre Dupuis, qui est un philosophe qui a beaucoup réfléchi aux nanotechnologies et qui a lancé pas mal d'alertes dès les années 2002-2003 en faisant beaucoup de conférences, considère qu'il y a une posture un peu d'apprenti sorcier. Il n'utilise pas ce terme-là. Il dit qu'il y a une posture qui est on veut voir les propriétés émergentes. Donc les ingénieurs des nanos, ils sont dans une posture, j'essaye tout ce que je peux et je vais voir ce que ça va faire. Et la question, c'est est-ce que ces propriétés émergentes vont pouvoir être contrôlées ? Et on sait bien que si on essaye des choses sur le vivant, quand vous modifiez une bactérie, quand vous modifiez une plante et que vous le mettez dans l'environnement, si vous le confinez pas, c'est quand même tout à fait apprenti sorcier, là, par contre, très clairement.
On n'est pas dans une démarche purement scientifique, même.
Alors, eh ben oui, mais ça, c'est déjà bien avancé depuis une trentaine d'années. C'est la technoscience. Hein. On a, en fait, une fusion entre la technique qui nous permet de comprendre. Feynman, qui est un grand fondateur des nanotechnologies, Richard Feynman, prix Nobel de physique, qui a vraiment eu ce discours en 59, il y a beaucoup de place en bas, et qui était vraiment visionnaire, a considéré qu'on allait pouvoir donc manipuler ces matériaux et donc avoir une rupture dans les possibles. Hein. C'était cette idée-là.
Et c'est quoi les propriétés émergentes, concrètement
Alors, il y a plein de choses qui ont plusieurs natures. Il y a, par exemple, si on veut être un peu concret, pour reprendre l'exemple du nanotitane, qui est intéressant pour tout un chacun, parce qu'on en trouve dans les cosmétiques, dans les ciments.
Dans les lunettes.
Et dans les cosmétiques, pourquoi c'est intéressant Vous vous souvenez, dans les années 70, il y avait beaucoup d'écrans solaires qui étaient très blanchâtres. Ils étaient blanchâtres parce qu'ils avaient déjà du titane, mais du titane qui n'était pas nanométrique. Quand il est nanométrique, il devient transparent. Donc, en fait, vous voyez, c'est un effet de réfraction de la lumière qui est différent. Donc, vous voyez, une propriété émergente, réfraction de la lumière qui est différente, qui fait que c'est transparent et c'est... Il y a l'avantage d'être transparent et il y a le fait qu'à 60 nanomètres, les nanos... particules de dioxyde de titane sont les plus efficaces. Donc on peut considérer que c'est une bonne idée.
Oui, c'est pas une construction moléculaire, atome par atome. Là, non, c'est plus une réaction chimique.
Voilà, c'est ça. Voilà, je crois que c'est très important qu'on comprenne une bonne fois pour toutes qu'on nous a vendu au départ avec les nanos une rupture. Une construction atome par atome avec le microscope à effet tunnel, avec des pinces optiques, enfin une rupture scientifico-technique, et qu'en fait, il n'y a pas de rupture réelle. Il y a peut-être une rupture instrumentale avec le fait qu'on puisse effectivement déplacer les atomes un par un. Mais la vraie rupture, elle est industrielle et elle est marketing. Elle est dans cette mise en ordre de bataille des chimistes, des biologistes, des gens de l'électronique qui tous sont à cette échelle-là et qui vont essayer de trouver des interfaces entre support de l'information électronique, support de l'information génétique, support de l'information du cerveau, etc., de façon à avoir des interfaces à cette échelle.
D'accord. On a vraiment l'impression, excuse-moi Sophie, que les scientifiques sont très enthousiastes avec cette nouvelle science. Donc il semble que, en vous suivant bien, que cet enthousiasme viendrait de cette fameuse convergence de différents domaines qui permettrait de relier le vivant avec tout le reste.
C'est tout à fait ce qui a fait la grande fascination du domaine au début des années 2000. Vraiment, c'est le point. Et ce qui est très, très étonnant, c'est que c'est un pari. C'est-à-dire, on imagine qu'effectivement, on va pouvoir travailler tous ces domaines ensemble. Ce n'est pas si sûr. Parce que est-ce que vraiment le vivant peut être comparé à une machine ? Est-ce que vraiment il n'y a pas une antinomie entre programmer le vivant et son évolution automatique ? Le vivant n'est jamais stable. Il ne peut pas être vu avec des yeux d'ingénieur. Quand aujourd'hui, dans le champ de la biologie synthétique, c'est-à-dire, vous savez, il y a eu la chimie de synthèse, maintenant il y a la biologie de synthèse. C'est-à-dire que non seulement on avait greffé des gènes, des bouts de gènes avec les OGM dans des organismes banaux. Maintenant, l'idée, c'est qu'on construit complètement le génome, c'est-à-dire un peu la cassette programme d'un organisme vivant. Et comme ça, il va nous faire des choses sur mesure. C'est ça, la biologie de synthèse. Eh bien, quand vous faites ça, est-ce que réellement, on peut imaginer que ça va fonctionner ou pas ? Eh bien, c'est pas du tout, la réponse n'est pas donnée. Les spécialistes ne sont pas d'accord. Certains pensent qu'on peut pas, le vivant est intrinsèquement quelque chose qui évolue, qui vieillit, qui naît, qui meurt, et qu'on ne pourra pas le stabiliser dans un état, et que quand on le stabilise, il dégénère. Donc en fait, la vision des ingénieurs, et notamment Drexler dans les engins de création de ce livre, qui était aussi une sorte de rêve éveillé sur ces machines moléculaires, et c'est peut-être un rêve juste d'ingénieur, parce que les biologistes sont très sceptiques.
Mais est-ce que l'artefact peut quand même pas, à certains moments, pallier certaines imperfections du vivant ? Enfin, je pense par exemple aux puces qu'on met dans le cerveau pour lutter contre la maladie de Parkinson. C'est quand même des avancées extraordinaires.
Alors là, on a une application très, très particulière où effectivement, on implante des électrodes qui vont stimuler certaines zones précises du cerveau pour bloquer les tremblements. C'est un processus d'inhibition. C'est effectivement une aide thérapeutique de confort enfin, pour des gens qui sont très éprouvés. Donc ça, c'est incontournable. Et effectivement, si on réduit les échelles, qu'on fait des électrodes de plus en plus fines, on aura de moins en moins d'effets secondaires, on sera de plus en plus précis. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui doit être développé, certainement. Mais est-ce que ça a à voir avec la réflexion précédente qui concerne la biologie de synthèse ? C'est pas du tout du même ordre. Hein. Mm-hmm. Essayer effectivement d'avoir une hybridation entre le corps et l'électronique. On a déjà les pacemakers, hein, on a plein de choses. On peut avoir des implants cochléaires pour l'oreille. On peut avoir tout un tas de choses. On pourrait d'ailleurs imaginer des applications qui sont pas sur des cas de maladie, on pourrait avoir des solutions de confort. On pense à des solutions pour l'obésité. Alors là, c'est peut-être pour des cas effectivement qui deviennent quasi maladifs, mais on peut aussi avoir des applications qui pourraient être des modulations de l'humeur, hein, comme on a des médicaments qui sont détournés, un neuroleptique qui peuvent être détournés pour faire antidépresseurs ou pour faire de la stimulation. Vous savez très bien que tout ça, c'est toujours dans la société des réagencements selon les besoins. Mais je dirais, si on revient à la technologie bio, l'idée de faire des organismes vivants de synthèse artificielle, est-ce que vraiment on les contrôlera ? Dans quelle relation avec les organismes extérieurs ils seront ? Dans quelle concurrence ils seront ? Est-ce qu'on les contrôlera ? Tout ça, et c'est pas du tout, les réponses sont pas là.
Parce qu'il y a aussi pas mal de préoccupations par rapport aux puces RFID aussi. C'est encore un sujet qu'on n'a pas abordé. On n'a pas abordé la question des libertés individuelles.
Oui. C'est une certaine prise de contrôle. Si on fait tout petit, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas attraper justement les puces pour le...
C'est impalpable.
Est-ce qu'il n'y a pas risque de, justement de, de prise de contrôle par l'intérieur.
C'est très important. C'est très important l'invisible, la dimension invisible pour la perception de tout un chacun. Le fait qu'on ne voit pas ces ajouts de fonctions, le fait qu'on ne voit pas effectivement des puces d'identification, les puces RFID qui vont se généraliser puisqu'elles sont de moins en moins chères et qu'elles vont remplacer les codes-barres pour toute la gestion de stock, pour tout le suivi des animaux, même des personnes, pourquoi pas. Tout ça nous laisse un peu perplexes ou même inquiets. Parce qu'on voit très bien qu'il peut y avoir, alors là très précisément, et là c'est très juste, la dimension de convergence entre des capteurs qu'on ne verrait pas, qui prendraient des informations à notre insu, qui pourraient nourrir des banques de données en permanence, qui informeraient sur la localisation, sur l'état de santé, sur l'état bancaire des personnes, sur leurs relations, etc. Et effectivement, on a vu à la fin du débat nanotechnologie, dont on va reparler, j'imagine, puisqu'on ne peut pas ne pas en parler, le débat national qui s'est terminé le 23 février dernier. On a vu Alex Turc, donc le président de la CNIL, la Commission informatique et liberté, interroger de manière extrêmement vive les responsables présents dans la salle pour dire je ne vois pas comment nous allons être en mesure de trier, de pouvoir bloquer des applications, des technologies qui pourraient être dangereuses, menaçantes pour les libertés individuelles. Ils considèrent que si on peut rejoindre les personnes dans leur intimité les plus reculées, eh bien, on menace le droit d'expression des personnes et que dans ces cas-là, c'est pire que dans le film La vie des autres que vous avez peut-être vu, où vous avez un ennemi, c'est la Stasi, vous savez très bien qu'il y a cet ennemi. Ben, si il n'y a plus d'ennemis, c'est juste l'État qui organise ce système-là, ben, vous êtes complètement immergé dans un cadre où vous ne pouvez plus avoir prise.
C'est encourageant.
Alors, ce que je vous propose, c'est que là, on est rentré dans le vif du sujet. Vous avez commencé à parler du débat national qui a été lancé. On va peut-être faire une pause musicale. On en reparle tout de suite après, parce qu'effectivement, c'est important. Et on va aborder un peu toute la contestation qui est arrivée, justement, à la suite de ce débat. Johan, on écoute quoi ?
C'est Massive Attack, Splitting the Atom.
On est en plein dans le sujet.
Retreat, the pleasure it fails at the end of the night.
Qu'est-ce que vous pensez de cette musique ? N'est-elle pas de circonstance ?
Splitting the atom, on est en plein dedans, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, mettre en miettes, découper les atomes, c'est cruel.
Et c'est pourtant ce qui nous arrive. Alors, on a commencé à parler tout à l'heure de la commission du débat public, c'est ça, particulière du débat public,
oui.
Je ne sais plus exactement son nom. Alors, c'est une commission qui a été mise en place suite au Grenelle de l'environnement. C'est exactement la commission particulière du débat public, c'est ça. Elle est présidée par Jean Bergougnoux. Et en l'occurrence, on a pas mal entendu parler de ce débat parce qu'il s'est pas tenu a priori dans les meilleures conditions possibles.
Alors en fait, il faut bien comprendre le cadre parce que en fait, il existe une commission nationale du débat public depuis 98, je crois, en France, qui a eu d'ailleurs dans sa mission une extension en 2005. Pour traiter d'options générales de type nanotechnologie. Et c'est une commission qui, de manière très classique, fait des encadre des aménagements du territoire quand il s'agit de tracer une ligne TGV, mettre un équipement de station d'épuration, etc. Et qui donc met en place une discussion avec les gens concernés d'un territoire et avec le promoteur. Et là... Pour chaque débat est nommée une commission particulière de débat public. Voilà. Et en l'occurrence là, dans le cadre du Grenelle, beaucoup d'associations ont demandé que se mette en place un débat sur les nanos. Et donc sept ministères ont commandé à la commission nationale du débat public la mise en place de ce débat. Et donc la CNDP a mis en place une commission particulière présidée par Jean Bergougnoux, ad hoc, donc, ciblée sur les nanotechnologies, qui a organisé 17 débats dans 17 régions de France.
Alors, en l'occurrence, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était plutôt de l'extension du domaine de la lutte, pour le coup.
Alors, en fait, ça n'a pas été simple de faire d'abord un processus d'information avec un dossier d'initialisation avec sept ministères qui, chacun, ont des visions différentes, hein, La vision du ministère de l'Industrie, ce n'est pas celle de la recherche, ni celui de l'écologie ou de la santé. Donc, ça a été un peu difficile. Cette information de caractère un peu descendant, structurée par les ministères, a fait l'objet donc, d'un dossier qui permet de se faire un peu une idée des nanos. Et puis, on démarrait les débats le 15 octobre. Il y a eu plusieurs débats, 3-4, qui se sont passés à peu près tranquillement. Puis rapidement, à Clermont-Ferrand, puis à Lille, de grandes oppositions à la discussion se sont manifestées. Des gens ont bloqué, ont dit « mais non, on ne veut pas ce type de débat, on veut quelque chose qui questionne de façon beaucoup plus fondamentale où va la technique, pourquoi ces nanotechnologies ?» Et puis, le summum a été atteint le 1er décembre avec le débat à Grenoble. Forcément, le débat à Grenoble. À Grenoble, il y a de la contestation depuis 2002, très présente. L'inauguration de Minatech à Grenoble en 2006 a été faite avec protection policière, alors que dans la rue, il y avait 2000 personnes qui étaient en pleine manifestation, qui ont été interdites d'entrer à l'inauguration. Et je dirais, nous, à Vivagora, hein, qui est notre association qui s'intéresse aux choix scientifiques et techniques, qui avait organisé des débats publics dès 2006, 6 débats à Paris puis 6 débats à Grenoble, on avait bien compris qu'il y avait vraiment un questionnement de fond sur cette question de où vont ces nanotechnologies et est-ce que c'est vraiment ce dont nous avons le plus besoin. Et à Grenoble, on avait bien pris la mesure. C'était logique que ce débat soit assez chahuté. Mais suite à Grenoble, la commission particulière du débat public a continué à se dire « bon, on continue malgré tout ». À organiser des débats dans 2 salles différentes. Je crois que c'était à Nancy ou à Metz, enfin dans l'Est. Et là, je dirais, ça a mis de l'huile sur le feu parce que c'était un peu dire on fera le débat coûte que coûte et celui qu'on a organisé, formaté tel qu'on l'a formaté.
Puis les gens bien acceptés d'un côté, les autres...
Voilà, sachant que les gens ne pouvaient rentrer dans ces débats qu'en montrant leur carte d'identité, avec fouille, etc., etc.
Et certains avaient même été éliminés d'emblée à partir du moment où ils étaient sur les listes.
Voilà, il y a eu tout un système de rouge. De prise de vue avec des gens indésirables. Donc, c'est vraiment pas des bonnes conditions. À Vivagora, on a clairement dit à ce moment-là de faire attention à recadrer peut-être un peu les choses de façon à éviter de braquer et d'arriver à une situation d'opposition entre technophiles et technophobes. Parce que dès lors qu'on arrive dans la polarisation, et ben après, on est contre-productif. C'est-à-dire que le débat, il est stérile.
Puis, il y a des associations qui n'ont pas fait partie du débat dès le début. Il y en a qui ont fait partie, qui s'en sont retirés. Je pense aux Amis de la Terre, par exemple.
Oui, parce que ça a créé une instrumentalisation. Aller au débat, c'était comme accepter les termes de positionnement du débat. Donc, et puis, comme la position donc essentiellement portée par Pièce et Main d'œuvre, qui était leader dans cette contestation.
PMO.
Et pas seulement. Hein, y a quand même beaucoup de groupes qui sont reliés et je crois que tout ça est un... Il y a une mouvance de questionnement de la technologie avec, on l'a vu avec les OGM, hein, la Confédération Paysanne a été aussi très, très vigilante, non pas sur les problèmes d'ailleurs de risque des OGM, mais sur quel système on fabrique avec les OGM, c'est-à-dire les brevets sur le vivant, c'est-à-dire est-ce que vraiment la cohabitation des cultures est quelque chose de réel, de possible, ou est-ce qu'on est d'emblée en train de dire il n'y aura qu'un seul type d'agriculture et tant pis pour l'agriculture bio. C'était ça les questions de la Confédération paysanne. C'était les mêmes, c'était questionner le type de système qui va avec ce type de technique.
D'accord. Il n'y a peut-être pas un petit problème dès le départ avec le débat, parce que je crois qu'il a été sectorisé, on va dire ça, sur 17 villes, mais avec 17 thèmes différents. Comment, je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Comment peut-on parler d'un thème en l'abordant 17 façons différentes? Comment on peut partager une information de cette manière-là
Alors que c'est de l'info générale en plus.
Oui.
De toute façon, c'est très difficile hein, d'organiser un débat sur un sujet aussi vaste. On voit bien dans notre conversation que ça, c'est tellement multiforme, protéique, avec un historique où on ne s'y retrouve pas, où même les spécialistes des nanos disent bah, les nanos dont on parle, ce n'est même pas celles dont on parlait au début. En fait, on a tout un tas d'emboîtements, de logiques dans les nanos. C'est aussi de toute façon un peu impossible de faire un débat sur la convergence. Enfin, on plane complètement si on fait un débat. Enfin, on peut le faire. Mais je pense qu'on pourrait dire là, à ce stade, qu'on peut aborder les nanotechnologies de plein de façons. Ce qui est important, c'est de les aborder avec le public d'un point de vue politique. C'est-à-dire du point de vue de comment on pilote cette chose-là ? Est-ce qu'on sait ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est responsable ? Est-ce qu'on sait qui sera responsable de telle et telle application, tel ou tel usage ? Est-ce qu'on maîtrise les risques ? Et est-ce qu'on favoriser des applications qui comptent, par exemple, vers l'énergie. Ça, c'est intéressant, les panneaux solaires, vers les membranes pour l'épuration de l'eau, vers des applications de type développement durable. Bon, est-ce que c'est ça dont a envie de discuter le public ? Et très clairement, là où, effectivement, il ne faut pas s'enferrer, c'est d'aller vers une explicitation technique où le public s'y retrouve pas forcément et où, en fait, bah, ça arrange les experts, ça arrange le monde scientifico-technique, si je puis dire, et le public est largué. Bon. Donc il faut essayer de poser les choses d'un point de vue de la gouvernance, de comment on pilote les choses. Et bah, là, on aurait pu prendre, en fait, plusieurs angles. On peut très bien partir travailler ces questions de pilotage par des cas concret, et c'est ce que fait le Nanoforum, qui est un débat public qui existe depuis 3 ans à Paris, qui se tient avec plus de 100 personnes à chaque fois sur des études de cas. C'est au CNAM.
Aux arts
et métiers. Et ces débats réunissent des gens assez variés ils traitent nanocosmétiques, nanofood, nanociment. Et on voit qui fait quoi. Il y a un industriel, Italcementi, par exemple, qui est venu expliquer pourquoi il met du nanotitane dans son ciment.
Pourquoi, en l'occurrence ?
Ben pour faire un effet de auto-nettoyant. Donc ça intéresse les gens qui construisent des bâtiments. Ça leur évite d'avoir des tas de dépenses après. Et puis, il y a des caractéristiques qui permettent aussi, avec ce titane dans les ciments, de détruire certains polluants de l'environnement qui sont les oxydes d'azote. Donc il y a un effet catalyseur qui supprime. Donc c'est antipolluant. Oui. Voilà. C'est validé. La question, c'est est-ce que bénéfice-risque, là, est vraiment intéressant ? Parce que si on a un lessivage de ces ciments et que ce nanotitane repart dans l'environnement, comme on sait que c'est assez toxique pour les micro-organismes, c'est peut-être, on n'a peut-être pas le bilan totalement positif. En tout cas, ce n'est pas pour les mêmes personnes. Donc, c'est tout ça qu'il faut poser dans l'espace public. Et ça se passe à Paris, ces débats. Donc, ça veut dire qu'on peut aborder des questions politiques ou de gouvernance par des petits points très précis aussi. On a eu toute cette année 2009 des débats sur le nano-argent. Est-ce que c'est vraiment utile ? Utile, futile ? Comment on fait pour peut-être préserver les meilleurs usages dans les hôpitaux, puisque c'est un antibactérien, vaut mieux que ça protège les malades et pas les gens qui partent au Club Med avec leurs chaussettes anti-odeurs. Il y a peut-être des priorités à établir dans nos sociétés et peut-être pas laisser la consommation effrénée jouer de son libre exercice.
On a un petit peu l'impression quand même que le public est inséré dans le débat, mais vraiment au dernier des derniers moments. Est déjà mis en place.
Comme si c'était pour valider d'une certaine façon ce qui a déjà été fait.
Bon, je pense qu'on a confondu. De toute façon, si on était un peu, je crois, lucide au début de cette dynamique de débat public, il était clair qu'à partir du moment où les gens ne sont pas au courant de tout ça, il fallait déjà prendre le temps de l'information.
C'est vrai que c'était une surprise.
Et on ne peut pas court-circuiter ça, d'une part, et on ne peut pas faire en même temps l'information et la concertation. Parce que sinon, vous manipulez les gens. Parce qu'ils découvrent, donc ils ne peuvent pas se faire un avis en même temps. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, là, il y a un problème de distribution des cartes. Après, il y a un deuxième problème qui est distribution des rôles. Comment se fait-il qu'on fait un débat sur ce domaine des nanotechnologies qui est totalement piloté en France par le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et que, donc, en fait, qui aurait pu être le maître d'ouvrage, le vis-à-vis pour l'État, à qui on aurait pu poser des questions. Pourquoi vous développez Minatech? Pourquoi vous développez NanoInnov sur le plateau de Saclay avec 46 millions d'euros qui sont investis actuellement? Bon, c'est quoi les objectifs? Très bien, donc on en discute. Mais voilà, là, on aurait eu un vis-à-vis avec des projets concrets qui existent, qui aurait été, justement, on aurait eu une butée, si vous voulez. On part pas comme ça, dans le flou, en ayant, voilà, on va discuter dans le vague des nanotechnologies. Ben non, il y a des projets, et ces projets, ils sont politiques aussi. Donc c'est là qu'il fallait poser le débat.
Et c'est intéressant ce que vous dites, ils sont politiques, et c'est pas par hasard que ces pièces et main-d'œuvre qui portent le haut un peu de la contestation. Ça se passe quand même dans le bassin grenoblois. Grenoble, c'est considéré un peu comme la capitale des nanotechnologies. Il y a des enjeux financiers, économiques qui sont faramineux.
De toute façon, on est dans un contexte d'innovation. L'innovation a un certain nombre de logiques de compétitivité, de faire des brevets.
On est sur un pôle de compétitivité.
De course en avant pour publier, pour vraiment être dans les premiers. Donc, y a cette logique. La vraie question qui se pose aujourd'hui, et qui n'est pas si nouvelle que ça, c'est comment est-ce que ces logiques d'innovation sont traversées par des logiques sociales où il y a un problème de préservation des ressources, problème de pollution, cycle de vie des matériaux, comment on va faire pour recycler des matériaux qui sont des Canada Dry où on ne sait pas comment on va faire avec ces produits qui contiennent du nano-argent, du nano-titane, des nanotubes de carbone, qui sont, alors là, les nanotubes de carbone, du point de vue des risques, si on veut un tout petit peu s'arrêter quelques minutes là-dessus, problématique, puisque là, c'est pas tout à fait ce que disait le clip de tout à l'heure. Pour les nanotubes de carbone, ça fait bien 3 ans que c'est l'alerte rouge, quand même, du point de vue de l'exposition des gens qui peuvent être en situation de respirer ces nanotubes de carbone. C'est de type amiante. Ça crée une inflammation dans les alvéoles au fond des poumons. C'est en mesure de créer des effets cancérigènes. On ne va quand même pas recommencer le désastre de la crise de l'amiante. Donc on a des problèmes là très précis à régler. Et il faut s'assurer que dans les laboratoires du CNRS, dans les laboratoires du CEA, ou même dans des laboratoires privés qui produisent des nanotubes de carbone, eh ben, il n'y ait pas des travailleurs qui soient exposés à ces poussières qui peuvent être qui sont dans les laboratoires. Après, quand par exemple Arkema qui développe un prototype de production donc de nanotubes de carbone à Lac dans le Sud-Ouest, eh bien comment est-ce que on assure que ces nanotubes de carbone qui vont être produits à Michelin par exemple pour utiliser ces nanotubes dans les pneus?
Clermont-Ferrand, en l'occurrence.
Comment on s'assure que ces usages vont être sûrs, que ça ne va pas créer des poussières qui vont à la fois se diffuser dans l'environnement, qui font qu'on a déjà plein de pollution, on a déjà plein de plastifiants, on a plein de produits perturbateurs endocriniens qui créent des cancers, qui créent des maladies auto-immunes. On ne va quand même pas continuer ce problème. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment que l'innovation soit contrôlée dans OK, on innove pour des choses qui comptent, qui sont utiles aussi pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc la question de la justice sociale. Et il faut aussi que cette innovation préserve nos environnements qui sont tellement attaqués, enfin, et soit au service aussi peut-être de l'opposition, du processus de protection, de limitation des gaz à effet de serre, hein, aussi. Donc là, il y a avec les nanos des choses intéressantes. Donc favorisons ces choses intéressantes et limitons des usages un peu, je dirais, de babiole. C'est, le terme ne vient pas de moi, hein. D'ailleurs, c'est un autre prix Nobel qui parle de babiole, je l'évoque dans mon livre, les nanobabioles.
Les nanobabioles. Mais justement, dans ce débat, dans cette discussion sur les nanotechnologies, on a un petit peu l'impression que ce qui va rapporter de l'argent a été traité par les industries, enfin la science, etc. Et puis, tous les problèmes, on les laisse au public. Du coup, si on ne bouge pas, bah, les problèmes ils vont venir. C'est un petit peu l'impression qu'on a. J'ai réécouté deux fois le clip officiel. La première fois, bah, ça ne m'a pas choqué, mais après m'être informé, en réécoutant le clip, j'ai trouvé un petit peu gonflé l'attitude de laisser en fait, toutes les parties difficiles à traiter au public.
Ah, j'ai entendu un sociologue qui disait que c'est un nano-principe de précaution.
Ah, mais ça, c'est très intéressant, ça. Je trouve ça très intéressant parce que c'est quoi la manière de réfléchir à la responsabilité collective. C'est ça le point. C'est comment est-ce qu'ensemble, on arrive à mettre en place une innovation qui soit dans la vigilance et dans l'utile, dans des choses qui ont du sens pour l'intérêt général. Comment on fait ça? Eh bien, ce n'est pas les citoyens qui sont à côté et qui vont faire du rattrapage. Nous, on appelle ça à Vivagora les pompiers. On considère que le débat ne peut pas jouer le pompier de l'innovation. Aujourd'hui, il y a un constat, l'innovation est désajustée. Elle est discordante avec la demande urgente de la société. On l'a vu à Copenhague, il n'y a pas besoin de faire de schéma. On voit qu'il y a une société internationale, des populations, même dans les pays du Sud, qui disent qu'il faut absolument freiner la fuite en avant de production de gaz carbonique. Et les gouvernements n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Donc par rapport à ça, la vigilance, c'est de changer des pratiques avec les parties prenantes. Les parties prenantes, ce n'est pas juste donc, les citoyens qui vont venir faire du rattrapage. Ça n'existe pas. Il faut véritablement travailler avec les différents groupes et leurs responsabilités. Les chercheurs, le monde académique, il a des responsabilités. Il a des responsabilités d'alerte. Il a des responsabilités d'information, d'exploration de questions qui comptent à l'écoute en écoute de la société, pas forcément en écoute avec l'industrie. Il y a des questions qui comptent sur la toxicologie. Comment se fait-il que l'INRA aujourd'hui, l'Institut de recherche en recherche agronomique, n'a pas de programme véritablement sur la toxicologie en matière de nano-aliments? Comment se fait-il? Moi, je pose la question. Quelle est la responsabilité? Est-ce que ce sont des gens responsables qui savent très bien que toutes les industriels de l'agroalimentaire préparent des tas de produits avec des nanoparticules? Non, pas de recherche.
Pas plus l'AFSA hein, non plus, l'Agence française des sécurités.
Dans le champ alimentaire, il y a un vrai problème. Donc, que chacun nettoie devant sa porte et prenne ses responsabilités. Donc, le monde académique, les industriels qui travaillent sur les normes, sur comment faire des normes, des pratiques responsables en prenant en compte les risques, mais les risques en amont, c'est-à-dire quand ils vendent leurs produits, est-ce qu'ils regardent les usages? Est-ce qu'il va falloir faire une sorte de CNIL des technologies? C'est-à-dire, vous savez, dans les années 78, quand a été créée la Commission informatique et liberté. Ça, ce n'est pas imposé comme ça, de manière automatique. C'est des gens qui se sont battus pour dire qu'il y a une valeur face une technologie qui est l'informatique, c'est la liberté. Et bien, face aux nanotechnologies, il y a des valeurs qui sont inventées, qui sont peut-être des valeurs de justice ou des valeurs qui peuvent être de précaution, de prudence, tout simplement. On pourrait créer une commission technologie et prudence.
Les recyclages, parce qu'apparemment, c'est un problème...
Oui, tout à fait, prudence. Prudence, prudence, ça veut dire anticiper, ça veut dire veiller, et ça veut dire l'alerte. Ça veut dire que ça, c'est pas une affaire qui est une affaire juste des industriels, juste des pouvoirs publics, juste des politiques, juste des citoyens, non. C'est une affaire collective.
On est plus dans le principe de précaution, là.
On est dans le principe de précaution. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'ils continuent à faire un processus qui est délétère, qui est qu'ils continuent à polariser. Il y a les imprudents d'un côté, les précautionneux de l'autre. Il faut arriver, en fait, à sortir de ces espèces de manières de s'alpaguer, de se prendre un peu en opposition comme ça, pour se dire, bon, c'est notre problème commun, donc il va bien falloir le régler. Et on ne peut pas le régler juste en disant, ah oui, il faudra un moratoire sur les nanos. Je veux dire, ça produit quoi? Il faut retrousser les manches et se dire, l'innovation doit changer. dans ses manières de s'organiser. Et effectivement, moi, je rejoins votre analyse. Comment se fait-il qu'au ministère, quand on pose la question à l'Agence nationale de la recherche, mais ça va servir à quoi, les nanos, c'est quoi le pilotage, eh ben, il n'y a personne dans l'avion, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et donc, vous avez raison. C'est-à-dire, quel est l'affichage politique de la raison d'être des programmes? La raison d'être de NanoInnov, c'est clair, on nous a dit, c'est pour faire du brevet. Est-ce que la population, elle veut qu'on fasse, que la France fasse des brevets? Ou est-ce qu'elle a d'autres valeurs? Il faut se poser, voilà, il y a en fait un vrai conflit. Il y a des conflits de valeurs entre les gens. Et en fait, la discussion publique, elle doit se porter sur c'est quoi les valeurs qui sous-tendent l'innovation? Est-ce que c'est pour le secteur militaire? Est-ce que c'est au service de relations? Par exemple, la téléphonie mobile, bah, c'est pas si mal. Hein, ça nous met en communication, ça donne des tas de services. Voilà, il faut essayer de trier ce qui nous est utile et ce qui correspond à la demande sociale en essayant de ne pas aliéner les gens à ces technologies.
Donc, en résumé, je vois que le temps passe et qu'on arrive quasiment au terme de notre émission. Finalement, on en revient à des questions éthiques et déontologiques. Et c'est à ça que vous appelez, finalement, que la technique, elle ne mène pas le monde.
On est très clairement dans une société où on a un peu des réflexes, où on pense que oui, vite, le médecin va nous sauver de ceci, de cela, très bien, que vite, notre corps serait presque traité comme une voiture, avec son check-up, avec sa révision technique régulière, etc. Et il faut quand même voir que la technique doit rester quelque chose au service de l'humain. Et il faut absolument qu'elle soit traversée par la vie sociale, la hiérarchie de ce qui compte pour chacun. Et ça, c'est tout un chantier qui n'est pas vraiment commencé. Il faut redonner du sens à la technique. Il faut réaffecter la technique, comme le dit très bien Bernard Stiegler, avec des processus pragmatiques. Avec, vous savez, dans certains secteurs, on a créé des commissions locales d'information et de concertation. Voilà, il faut dédramatiser le débat public pour qu'il soit diffus, permanent.
Alors vous aviez dit quelque chose de beau que je me permets de reprendre dans Le meilleur des nanomondes. Je crois que c'était une conclusion. Vous avez dit, ce sont les idées qui mènent le monde et non la technique.
Ah oui, forcément, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des automates.
Est-ce que c'est une bonne conclusion pour cette émission?
Peut-être, il y en a beaucoup. Je pense que ce qu'il faut considérer là, c'est notre avenir et que l'avenir n'est pas écrit. Et il y a une autre citation que j'ai indiquée dans mon livre qui dit qu'il n'y a pas de fatalité et que le pire, c'est de croire à la fatalité. Nous avons une responsabilité commune à fabriquer notre avenir commun.
Mais je vous remercie pour ces paroles et puis pour cette émission qui a été particulièrement intéressante, de votre venue. N'est-ce pas, Johan?
Oui, on va finir l'émission avec Kraftwerk, aérodynamique et peut-être une prochaine émission sur les nanotechnologies.
Ça en aurait mité beaucoup.
Il y a de quoi dire et puis le sujet ne fait que commencer. Hein.
Bah donc à très bientôt.
Merci à beaucoup. Bientôt et merci encore. Au revoir. Thank you.